Salut, c'est Ziad et Pierre de l'Atelier des Médias. Pierre, car Pierre Chaffanjon remplace Simon qui est en vacances. Cette semaine, j'ai fait un saut de puce à Grenoble, dans le centre-est de la France, pour assister à un débat sur les médias locaux, en compagnie d'Edwy Plenel de Mediapart et de Laurent Mauriac de Brief.me, ancien de Rue 89. L'événement était organisé par Participé, un pure player local en cours de développement porté par 5 étudiants à pure player. C'est un média qui s'est lancé sur Internet. Il existe un autre média local à Grenoble appelé Place Grenette. C'est une des opportunités de l'Internet et du web. En réduisant les coûts de diffusion, le réseau des réseaux permet à des milliers de projets sans moyens d'éclore. Des médias locaux comme Participé ou Place Grenette et des médias hyper locaux comme j'en ai fait l'expérience récemment à Montréal.
Très bien, Internet! Qu'attendez-vous de nous ?
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf,
Pierre Chaffanjon.
Et vous.
Il s'intéresse à quelques rues, un quartier, un village dont il couvre l'actualité culturelle, politique, sociale. Les médias hyper locaux se multiplient un peu partout dans le monde. De passage à Montréal, au Canada, j'ai eu l'occasion de rencontrer 5 porteuses et porteurs de journaux jeunes et hyper locaux. Nous les retrouvons dans quelques instants, juste après la chronique américaine de Marie-Catherine Beuth. Et dans presque une heure, Francis Pisani fait un point sur deux notions très à la mode mais mal comprises. La résilience et la sérendipité.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Marie-Catherine Beuth.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Tu es très occupée en ce moment par le lancement de ton application News On Demand, NOD, qu'on peut trouver sur l'App Store, c'est ça ?
Exactement, oui. Il suffit de taper Node, NOD.
NOD. Et tu souhaites nous parler d'autres initiatives médias qui ont attiré ton attention récemment ?
Oui, écoute, Zia, tu as un peu ouvert une boîte de Pandore en me demandant à réfléchir quelles étaient les innovations médias qui m'interpellent en ce moment. Et donc après vous avoir parlé de Quartz, j'avais envie de vous présenter aujourd'hui Ozy, O-Z-Y, qui est un média en ligne qui fait pas mal parler ici aux États-Unis. On y trouve une sélection d'articles quotidiens de la presse, médias en général, un certain nombre de productions originales, de la vidéo, une interface formidable. Le tout est façonné pour plaire à un public plutôt jeune, ce qu'on appelle les millennials, donc en gros les gens entre 18 et 30 ans. Et très intéressant, Ozy a fini par attirer les grands médias européens. Le groupe de presse allemand Axel Springer vient d'investir 20 millions de dollars dans le site, donc c'est à suivre de très près. Après, je parie que Ozy va arriver prochainement en Europe.
Tu veux aussi nous parler d'innovation, mais non pas en ligne, comme c'est souvent le cas, mais pour de la presse papier.
Absolument. Donc, il y a un autre magazine papier qui s'appelle California Sunday, qui a un peu fait l'actualité ici à San Francisco au début du mois. Pourquoi ? D'une part, parce que California Sunday veut être l'équivalent du New Yorker pour la côte ouest, donc un magazine où on a des longs articles, des essais, des choses très très bien écrites à lire plutôt tranquillement le week-end avec son café. Et ce que California Sunday a fait pour arriver à se lancer et à trouver une place dans les foyers des Californiens, eh bien, ils ont réfléchi à une stratégie de distribution assez innovante, plutôt maligne et qui n'implique pas tellement de technologie. En effet, California Sunday a payé des quotidiens déjà établis comme le Los Angeles Times, le Sacramento Bee, le Chronicle de San Francisco pour ajouter comme un supplément le California Sunday à leur édition dominicale. Ce qui fait que en un coup, ils ont réussi à glaner énormément d'abonnés qui sont certes des abonnés qui appartiennent à quelqu'un d'autre mais qui se retrouvent avec le magazine dans les mains et qui a donc permis à California Sunday de faire monter les prix publicitaires très rapidement et de dire aux annonceurs « Regardez, nous sommes déjà lus par des centaines de milliers de personnes en Californie alors que nous venons tout juste de nous lancer ». Au-delà du fait que California Sunday est un très chouette magazine à lire, je trouve que cette histoire est aussi symptomatique de l'innovation assez basique que l'on peut trouver tout simplement en réfléchissant un tout petit peu à comment est-ce qu'on arrive dans les mains de ses lecteurs.
Tu termines en nous parlant d'un autre magazine beaucoup plus célèbre celui-là, c'est le Time.
Exactement. Je me suis posé la question il y a quelques semaines. Je voyais très souvent des contenus de Time arriver dans mes flux RSS, mes fils Twitter et sur Facebook. J'ai un petit peu regardé qu'est-ce que Time Magazine faisait sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre pourquoi je les voyais comme ça partout. Et ce que j'ai trouvé est assez intéressant. Time Magazine a en effet une petite équipe dédiée à la distribution des contenus sur les réseaux sociaux qui participe aux conférences de rédaction. Et quand on évoque un sujet qui va être traité par le magazine le matin, tout de suite, ces éditeurs regardent quels sont les différents découpages ou angles d'un certain sujet que l'on peut prendre, qui risque de bien fonctionner sur les réseaux sociaux, de générer du coup beaucoup de trafic vers le site et aussi beaucoup d'intérêt, de notoriété pour la marque Time Magazine. C'est quelque chose à suivre et je trouve peut-être un modèle facilement réplicable par d'autres médias qui veulent utiliser les réseaux sociaux pour arriver devant les yeux de leur lectorat.
Merci Marie-Catherine Beuth. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes tes chroniques sur ton blog Étreinte Digitale hébergé par Le Figaro. On peut aussi retrouver tes chroniques en son et en texte sur ton blog de l'Atelier des Médias. Et on peut aussi découvrir tes projets, donc News on Demand et Newstapes.
C'est ça, oui, sachant que Newstapes est en train de fermer, de migrer pour devenir totalement Node et News on Demand.
Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
You're in tune to the international sound.
Bonjour Stéphanie Lalu.
Bonjour.
Bonjour Cécile Gladel.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux cofondatrices de rumasson.com, c'est ça?
On est cinq cofondateurs de rumasson.com, dont trois journalistes professionnels.
Stéphanie est journaliste, moi aussi, et Elisa Marie Noël, une autre journaliste, puis David Bruno, celui qui est derrière toute la technologie, tout le côté technique du site, et Éric Noël, qui est notre mascotte, on pourrait dire, Capitaine Rosemont, parce que Rumasson, c'est la rue principale du quartier du Vieux Rosemont. Nous, on élargit un peu plus, on est Rosemont, et c'est un quartier, on peut dire, à l'est du centre-ville de Montréal. On ne couvre pas seulement la rue Masson, on couvre le quartier au complet, des fois l'arrondissement au complet. Nous, on a un des plus gros arrondissements de Montréal, Rosemont, la petite patrie. Le côté petite patrie, on le couvre beaucoup moins, à part évidemment quand on couvre le conseil d'arrondissement, donc petite patrie est inclus dans ce cas-là.
Donc, vous vous êtes lancé il y a presque 5 ans, c'est ça?
Ben, en fait, on va fêter nos 5 ans cet hiver, à peu près en janvier-février.
C'était assez tôt, hein, parce que la naissance de sites, comme on dit, hyper locaux, c'est-à-dire local, c'est quand on s'intéresse à une ville en général, hyper local, c'est un quartier, à la limite une rue, presque, vous vous intéressez au quartier, mais ça pourrait même être une rue. C'était assez tôt pour lancer un projet hyper local.
Nous, quand on a commencé le projet, on n'a pas trouvé d'équivalent au Québec ni même au Canada. Il y avait quelques petites initiatives qui se faisaient en Europe, mais même eux, c'était au tout début. On était pas mal précurseurs à cette époque-là.
Alors, qu'est-ce que c'était le projet?
Outre le fait d'être les cofondateurs de rumasson.com, on est aussi des amis. Il y a aussi beaucoup de couples dans cette histoire. C'est une histoire de famille un peu, hein. Stéphanie et son conjoint Eric sont dans le projet. David et Lisa Marie, ce sont aussi un couple. Et moi au milieu. Et Stéphanie, Eric et moi, on a acheté un édifice appartement où on vit ensemble aussi. Donc
c'est rumasson, évidemment.
Non. C'est, ouais, on pourrait appeler cet édifice rumasson.com pratiquement parce que c'est un peu notre siège social, si on peut dire, là. On discutait souvent ensemble de ce qui se passait dans notre quartier. On se demandait, tel commerce, telle chose, l'arrondissement, qu'est-ce qui se passe au niveau municipal, tout ça. Et on n'avait pas de réponse vraiment. Et on s'est dit, pourquoi on n'irait pas chercher les réponses? Comme on était déjà des journalistes, on travaillait comme journaliste indépendante à divers autres endroits. Moi, j'avais un blog aussi à cette époque-là. Et puis, je parlais des fois de la rue Masson, des fois du quartier. Je me posais des questions. Donc, ça a été pour nous, OK, on va partir quelque chose. Et au départ, on ne savait pas quelle forme ça allait prendre, mais ce qu'on savait au bout d'un moment, c'est qu'on voulait avoir une forme journalistique et respecter l'éthique journalistique, parce que nous, on est membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et de l'Association des journalistes indépendants du Québec. Donc, pour nous, c'était important d'avoir une éthique journalistique et de la respecter.
Qu'est-ce que ça veut dire dans un média hyper local? C'est important d'avoir une éthique journalistique et de la respecter. Qu'est-ce que c'est les dangers? Qu'est-ce que c'est les choses à éviter? Stéphanie.
Ben, déjà, je pense que plus on est un média local, plus on est évidemment proche des gens qu'on va couvrir parce qu'on les connaît, on les croise, etc. Donc, d'avoir une très grande séparation entre la rédaction et la publicité d'un côté, mais aussi nos vies personnelles et le travail journalistique.
C'est délicat quand même, se fâcher avec un voisin pour un article, c'est compliqué, non?
Ben, les voisins, c'est peut-être moins problématique, mais parler des politiciens ou des commerçants, il faut être capable de se dire, ben là, je suis en train de travailler, là, je suis dans ma vie personnelle, mais aussi de garder, bon, une saine distance dans nos relations, tout en étant cordial aussi, là, je pense qu'on se croise, puis il faut... pas non plus être bête, là.
Donc finalement, quand on se lance dans un projet hyper local et qu'on vit évidemment dans le coin qu'on couvre, ça change un petit peu la vie. Enfin, en tout cas, il y a des choses qu'on peut plus faire, être trop proche de certaines personnes. Non, Cécile.
Si on sort quelque chose de pas très intéressant sur un commerce local ou un voisin ou un politicien, les gens vont peut-être des fois pas être contents de tout ça. Mais c'est ça le journalisme, il faut leur expliquer. Et on a un gros avantage en étant local et en habitant sur place. C'est par exemple, moi, le matin, quand je vais courir, je vois plein de choses et je remarque plein de choses. Je prends des photos, je prends des notes. On est proche de notre nouvelle et on peut plus facilement se déplacer pour aller chercher l'information, couvrir et faire notre article.
Et le danger, c'est pas de travailler tout le temps, finalement, puisque finalement, c'est quand on court, on veut un peu s'aérer la tête. Et là, tu finis par travailler en courant, chercher des infos. C'est plus fort que toi.
C'est tout à fait vrai que quand on habite le coin que l'on couvre, on voit des nouvelles tout le temps. Mais je pense, moi, en tant que journaliste, peu importe où je suis dans le monde, je vois des nouvelles tout le temps. Pour décrocher vraiment quand on est journaliste, faut comme, je sais pas, aller s'enfermer dans le bois où il se passera rien du tout, puis encore, un oiseau va chanter, puis on va penser qu'il y a une nouvelle, ou on va dire, hey, il y a quelque chose là, c'est quoi cet oiseau-là, pourquoi il chante? On va tout de suite continuer, puis notre cerveau va tourner. Donc, être journaliste, c'est un métier, mais ça continue tout le temps.
Vous vous êtes lancé il y a 5 ans, l'idée c'est que vous étiez un groupe d'amis avec plusieurs journalistes, un développeur, ça tombe bien pour faire un site internet. Vous êtes lancé et vous a dit on manque d'informations locales, c'est ça? Alors que paradoxalement, à Montréal, il y a beaucoup d'informations locales, il y a les hebdos de chaque arrondissement qui sont une institution. Non, vous faites non de la tête. Stéphanie, tu fais non absolument de la tête.
Ben, en fait, il y a techniquement plusieurs journaux qui sont des journaux locaux, mais ils ne couvrent pas nécessairement la nouvelle locale. Et les grands journaux qui sont quand même là pour la plupart basés à Montréal ne couvrent pas non plus ce qui se passe quartier par quartier. Donc, nous, on a un journal local qui est le journal de Rosemont, qui est le journal papier, si on veut. Comme c'est un journal d'un grand groupe de presse, souvent, ils se refilent les informations qui pourraient s'appliquer à tous les quartiers de Montréal pour les republier dans tous les mêmes journaux. Donc, oui, il y a une information locale, mais est-ce qu'elle est vraiment locale? Je pense pas.
Elle est pas hyper locale, en tout cas, c'est sûr.
Non, c'est sûr que, bon, il y a un journal de publier, c'est sûr.
Et donc, il y a 5 ans, vous dites, on va faire ça, vous lancez rumasson.com. Comment ça se passe? Comment ça évolue?
On a eu une belle réception, que ce soit même les autres médias ont parlé de nous. Le journal de Rosemont a parlé de nous quand on s'est lancé, notre concurrent maintenant, qui ne veut plus parler de nous, évidemment. Et au fur et à mesure, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert une page Facebook, un compte Twitter. On a commencé à couvrir les conseils d'arrondissement sur Twitter, c'est-à-dire qu'on y va et qu'on dit à chaque fois qu'est-ce qui se passe au conseil d'arrondissement en direct sur Twitter, comme le font d'autres journalistes pour des conférences de presse.
Ça marche, ça? C'est suivi? Ça intéresse?
J'ai l'impression que ça a comme intéressé certains citoyens à la politique municipale, parce que la politique municipale est le parent pauvre en général de la politique ou des nouvelles, et on le voit très bien quand on écrit un article sur le conseil d'arrondissement. C'est pas l'article qui va avoir le plus de clics. On le voit très bien, mais c'est faire œuvre utile, et la politique municipale, c'est la politique qui dessert les citoyens au quotidien. On était les premiers à couvrir un conseil d'arrondissement. Les élus ont commencé à tweeter aussi en même temps.
J'imagine que ça leur faisait plaisir d'avoir des gens qui suivaient ce qu'ils faisaient. Et en même temps, ça a changé peut-être un peu les choses.
Peut-être que ça leur faisait pas toujours plaisir, parce qu'on couvre aussi, on rapporte aussi tout ce que les gens viennent poser comme questions au conseil d'arrondissement. Donc, des fois, c'est des questions qui peuvent être un peu dérangeantes, ou qui peuvent être... les citoyens ont des préoccupations et ils viennent parfois interpeller les élus aussi.
Et pour le reste de votre éditorial, comment ça a évolué, éditorial au sens contenu, hein. Comment ça a évolué? Qu'est-ce que vous avez, sur quoi vous avez décidé d'écrire, de ne pas écrire, de ne plus écrire, etc., etc. J'imagine que vous avez avancé en faisant.
au point de vue du contenu, ben, on est d'abord allé avec nos intérêts personnels. Tout simplement, on regardait des sujets qui nous intéressaient, on commençait avec ça. Puis je pense que c'est allé pas mal chacun en termes de ce qui nous intéressait plus, tout simplement. Là.
Du coup, vous écrivez sur quoi? C'est quoi des exemples de grandes thématiques, etc. Cécile?
C'est extrêmement varié. On peut, comme ce matin, on a publié un article sur comment l'hiver s'en vient, comment aller dans le sous-sol pour qu'il fasse moins froid, puis aller boucher les trous et tout ça. C'est hyper populaire, ça a super bien marché. Et on peut publier aussi sur, il y a eu un accident de vélo auto il y a quelques semaines. On peut publier un article sur le conseil d'arrondissement, sur une rue qui n'est pas encore refaite, un commerce qui va ouvrir, un commerce qui va fermer.
Sur l'histoire du quartier aussi.
C'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. On a une belle collaboration avec la Société d'histoire de Rosemont-la-Petite-Patrie qui ont beaucoup d'archives, des photos et il y a encore, des personnes âgées qui habitent dans le quartier qui nous racontent « Ah, à l'époque, on déneigeait avec des chevaux ». C'est bon. Ce genre de truc-là, ça marche beaucoup, mais c'est pas du tout de l'actualité, évidemment. Là.
Je vais lire la manière dont vous vous présentez, vous pourrez commenter. Après, on parlera de votre tout nouveau projet, qui est le passage au papier. Rumasson.com est un média électronique hyper local qui couvre le quartier du Vieux Rosemont. D'ailleurs, maintenant, vous couvrez plus que le Vieux Rosemont. Voilà, c'est ce que vous avez expliqué. Le média génère des contenus écrits, audio, vidéo sur ce qui dessine le quartier, ses résidents, ses commerçants et ses entreprises, ses organismes, son architecture, son histoire et son développement. Il vise à donner aux résidents et à tous ceux qui sont intéressés, où qu'ils soient, un point de vue dynamique et progressiste sur la vie locale, sans tomber, c'est là où c'est intéressant, dans la branchitude urbaine, le discours corporatif ou la défense de la veuve et de l'orphelin.
Ce qu'on voulait dire dans ce sens-là, c'est qu'on n'est pas un média qui va prendre parti de pas défendre la veuve et l'orphelin, c'était peut-être un peu ça. Puis le côté branchitude, c'est que on voulait aussi se démarquer de tout ce qui est blog, de tout ce qui est « ouais, on parle de Montréal, c'est super cool ». Bon, de le faire avec une approche journalistique, de pas se présenter comme quelqu'un qui fait la promotion de Rosemont, même si par défaut, ça fait la promotion de Rosemont parce qu'on en parle.
Vous avez lancé il y a quelques jours pratiquement une version papier. Ça s'appelle Rumasson.com. Rumasson.com, c'est donc un petit magazine, une quarantaine de pages, je sais pas.
C'est 20 pages.
20 pages, tout simplement. Qu'est-ce que c'est ce projet? C'était un choix? Comment ça s'est passé, Stéphanie?
Déjà, quand on a commencé Rumasson.com version web, on a réfléchi à la question du papier et les coûts d'impression, en tout cas ici, sont énormes. Quand on parle de la publication d'une revue, c'est à peu près la moitié des coûts de production, incluant tout le monde qui travaille là-dessus. Donc, nous, on n'avait pas évidemment d'argent à mettre là-dedans, ni d'argent à perdre dans le papier. Et on s'est dit, on laisse tomber ça. De toute façon, le papier, c'est fini. Cinq ans plus tard, on s'est fait approcher par Factory l'agence, qui est une agence de publicité et communication qui est dans Rosemont aussi. Et eux nous ont dit, nous, on vous lit, on travaille là-dedans. Est-ce que ça vous tenterait de publier papier? Nous, on pense qu'il y a quelque chose de possible là-dedans. Donc, on les a rencontrés. On s'est dit, d'accord, on veut le faire, mais nous, on va être payés et on veut pas prendre de risques financiers par rapport à ça.
Jusque-là, vous travaillez toujours non payé. Il fallait que vous soyez payé, même si c'était des contenus que vous aviez déjà faits sur Internet ou non? Non.
Déjà, en partant, c'est ça. Le contenu du magazine est complètement différent de ce qu'on fait sur le web. Donc, on parle de contenu original parce que comme on va sortir seulement 4 fois par année, on peut pas faire de l'actualité. Sinon, après 2 jours, c'est plus pertinent. Et comme c'était pas une priorité nécessairement pour nous en partant de sortir papier, on s'est dit, on va se payer.
Cécile?
Quand on imprime sur du papier ou qu'on a une agence qui, elle, veut se payer aussi, l'agence ne veut pas travailler gratuitement non plus, pourquoi le contenu journalistique ne serait pas aussi payé? On ne voit pas pourquoi ça serait toujours les journalistes qui feraient du bénévolat. Si on ne peut pas payer tout le monde, personne n'est, puis on ne fait pas de magazine, tout simplement.
Quel accueil pour ce nouveau support? Quelle expérience pour vous de passer d'un média hyper local Internet à la suite, donc, ou la continuation, ou cet autre projet en parallèle d'un média hyper local papier? Stéphanie.
Peut-être que je peux parler en tant que rédactrice en chef par défaut parce que j'ai été rédactrice en chef de magazine papier aussi dans ma carrière. Mais c'est pas tellement différent. En fait, c'est sûr que quand on commence un nouveau projet, quel qu'il soit, faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, quel genre de contenu on va présenter. Les 3 journalistes professionnels, ça fait longtemps qu'on fait ça. C'est pas tellement nouveau pour nous de créer différents types de contenus, là. Je pense que ça a été plutôt dans la réflexion de quel genre d'approche on voulait avoir avec le magazine et comme on savait qu'on sortirait pas souvent, on s'est lancé plutôt vers des dossiers de fond sur des thèmes qui touchent au quartier.
Courte pause dans l'atelier, on se retrouve dans un instant, toujours avec nos invités de Montréal. Atelier des médias, nous sommes cette semaine en compagnie de 5 porteuses et porteurs de médias hyper locaux basés à Montréal. Les médias hyper locaux, ce sont ces organes d'information qui couvrent l'actualité d'une rue, d'un quartier, d'un village. Même s'ils n'arrivent pas souvent à se financer, l'Internet a permis leur développement en réduisant drastiquement les coûts de diffusion. Dans une vingtaine de minutes, les concepts de résilience et de sérendipité n'auront plus de secret pour vous grâce à la chronique de Francis Pisani.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RF.
Ziad Malouf. Pierre Chafanjon.
Et vous. RF.
Bonjour Philippe Raffiel.
Bonjour.
Vous êtes éditeur du journal des voisins, c'est ça?
C'est ça, ben, j'ai multiples chapeaux. Là. Je fais l'édition, la mise en page, la recherche de publicité, etc., etc.
C'est un journal qui se présente comme un journal communautaire d'information pour un quartier qui s'appelle Aountsic Quartier-Ville, c'est ça?
C'est ça, oui. C'est un des arrondissements de Montréal qui est assez populeux, un des plus gros, 140 000 habitants. On essaie de bien desservir la population. Au début, c'était tout petit, 3000 exemplaires. C'était il y a 2 ans.
Vous êtes lancé en juin. C'est un projet que vous menez avec votre femme?
C'est ça. On a parti ça à 2, puis on a été bénévole pendant 2 ans. Mais là, maintenant, on a 4 journalistes et 5 chroniqueurs. Puis maintenant, on est capable de payer des petits cachets là, à tout le monde. Alors, c'est bien intéressant pour ça. Là.
Donc, en juin 2012, vous disiez, vous distribuez 3000 exemplaires parce que c'est un projet papier. C'est ça avant tout?
Au début, on a commencé papier, puis c'était juste pour le petit bout de quartier où on était, mais... Les gens ont trouvé ça intéressant, les autres en ont eu vent, puis ont voulu aussi qu'on aille dans leur coin. Alors, finalement, on est rendu à 34 000 exemplaires à tous les 2 mois pour le papier, puis un hebdomadaire pour les actualités chaque semaine.
Et vous distribuez, du coup, ce contenu gratuitement, c'est pas un journal qu'on peut acheter?
C'est ça. C'est grâce à l'aide des commerçants qui placent une publicité qu'on peut se permettre de fournir le papier, là, comme ça, le journal papier gratuitement.
Vous avez lancé, pour le coup, immédiatement sur un modèle papier. Pourquoi vous avez fait ce choix alors que vous vous inspiriez notamment de Rue Masson, qui à ce moment-là était juste sur Internet?
Bonne question. Ben, en fait, tout de suite au départ, quelqu'un nous a dit « Ah, vous devriez aller sur le web aussi ». Puis comme on connaissait rumasson.com aussi, ben, on s'est dit « Ben, on va essayer ». Puis finalement, pour transmettre la nouvelle, c'est mieux ça qu'un journal papier, parce que le journal papier, tu ne peux pas le sortir à tous les semaines, c'est pas humainement possible pour...
C'est tous les 2 mois.
Oui, ouais, c'est ça, c'est à tous les 2 mois. Puis dans notre journal papier, c'est des reportages, là. C'est pas des actualités là, qui viennent de se passer l'avant-veille. Là. C'est vraiment plus des reportages, un peu plus de fond.
Le papier, c'est plus facile économiquement, notamment pour trouver des annonceurs, parce que les commerçants, les entreprises sont plus habitués à avoir une petite annonce dans, ou un petit encart publicitaire dans le papier. C'était ça aussi l'idée?
On suggère la publicité web aux commerçants ou la publicité papier, mais vraiment, ils sont très visuels, ils veulent le voir sur papier. T'sais, quand on leur dit un nombre de clics par semaine sur le web, c'est pas encore dans leurs mœurs. Finalement, ceux qui annoncent sur le papier ensuite annoncent quelquefois sur le web, puis finalement, ça va bien.
Du point de vue du contenu, alors, comment ça se passe? De quoi vous parlez? De quoi vous arrivez à parler? Sur quoi vous arrivez à écrire?
Alors, c'est tout un peu ce qui se passe dans le quartier. Ça peut être le ramassage des poubelles, le déneigement. Ça peut être une nouvelle piste cyclable. Un peu de tout. Puis des fois, les gens vont appeler, puis quand ils sont pas satisfaits après quelque temps, ben ils nous appellent, puis là, des fois, on fouille un petit peu plus certaines choses, on parle aux élus, ainsi de suite, puis les gens apprécient ce genre de travail qu'on fait.
Et vos projets, puisque ça a finalement bien marché depuis 2 ans, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous avez des changements, d'autres projets?
Pour l'instant, ce qu'on aimerait faire à moyen terme, c'est de pouvoir couvrir tout l'arrondissement avec le journal papier.
C'est pas le cas aujourd'hui?
Non, c'est pas le cas. Dans le moment, on couvre tout Aountsic, mais il y a une partie qui s'appelle Quartier-Ville aussi, qu'on couvre au point de vue des nouvelles, mais au niveau du papier, on le fait pas encore.
C'est-à-dire que vous n'écrivez pas d'articles vraiment sur ça?
Les articles qu'on fait dans le moment pourraient s'appliquer aussi à Quartier-Ville. Sauf que dans le moment, on n'a pas les reins assez solides pour pouvoir distribuer dans ce quartier-là, qui est un peu moins facile pour acquérir des annonceurs, disons. Puis, mais là, on vient de s'adjoindre un représentant publicitaire, alors ça va peut-être aider.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr
Bonjour Anne-Marie Provost.
Bonjour.
Alors, toi, tu t'occupes de la rédaction en chef d'un site qui s'appelle Quartier Hochelaga, c'est ça?
Oui, c'est ça. Quartier Hochelaga, c'est un média qui est uniquement sur Internet et qui existe depuis 2 ans. Puis bon, Quartier Hochelaga Maisonneuve, là, à Montréal, c'est un quartier qui a toujours vécu quand même beaucoup de pauvreté. C'est un quartier ouvrier, il y a eu beaucoup de chômage à une certaine époque. Et là, c'est un quartier qui est en plein embourgeoisement, si vous voulez. Il y a plus de commerces qui ouvrent, plus de restaurants. Ça crée une espèce de mixité sociale entre des gens qui sont enracinés dans le quartier depuis des décennies et des gens, des nouveaux arrivants qui deviennent des propriétaires, donc des jeunes familles, des jeunes professionnels. Puis ça crée quand même certaines tensions dans le quartier. On voit des belles choses qui émergent de ça, mais on voit aussi beaucoup de tensions. Donc c'est un quartier qui est très vivant. C'est pas statique, là. C'est assez dynamique.
Alors comment s'est né ce projet? Donc vous vous êtes lancé il y a 2 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Avant que Quartier Hochelaga naisse, il y avait des gens qui bloguaient sur le quartier, sur les restaurants, sur les différentes initiatives locales, puis tout ça. Puis finalement, ces gens-là se sont rassemblés, ont été chercher des nouvelles personnes, se sont regroupés sous le nom Quartier Hochelaga. Moi, je suis arrivée un an après que Quartier Hochelaga soit fondé. J'étais étudiante en journalisme à l'époque. Puis pour moi, Quartier Hochelaga, c'était une belle façon de pouvoir faire mes premières armes dans ce milieu-là.
Et donc, c'était des blogueurs, ils ont décidé de se regrouper, d'avoir un projet commun pour quoi? Pour raconter la vie de ce quartier, en gros?
Je pense que les gens qui ont parti ça sentaient un certain manque au niveau des grands, des médias papiers, des hebdos locaux, comme on appelle chez nous à Montréal.
Ça, c'est une particularité du Canada et de Montréal, c'est qu'il y a dans chaque quartier quelque chose qui s'appelle les hebdos, c'est ça? Et qui sont des petits journaux de quartier qui existent dans toute la ville et dans d'autres villes du pays, c'est ça?
Ouais, c'est ça. À Montréal, vous avez 19 arrondissements et il y a des hebdos qui couvrent sensiblement là, chacun des arrondissements. Par exemple, nous, dans Hochelaga Maisonneuve, l'hebdo local en format papier, c'est le nouvel Hochelaga Maisonneuve. Puis bon, toutes ces hebdos-là sont de la propriété de Transcontinental, qui est quand même un gros joueur dans l'industrie médiatique.
Un gros groupe de presse, quoi.
Au niveau des hebdos locaux, oui.
Comment ils se sont décidés de se regrouper, ces blogueurs, parce qu'il y avait un manque au niveau des hebdos? Il manquait quoi? Qu'est-ce que c'était l'idée?
De la formation proche des gens. Les gens qui s'impliquent dans le quartier Hochelaga, c'est des gens qui vivent dans le quartier, souvent même qui travaillent ou qui participent à des événements. Puis on avait l'impression qu'il se passait plein de choses dans le quartier, mais que, bon, hein, les hebdos locaux, ils font face à une réalité où ils n'ont pas beaucoup de journalistes pour tout couvrir la ville de Montréal. Donc, souvent, tu as un journaliste qui doit s'occuper de 2 arrondissements ou 3 arrondissements. Nous, à Quartier Hochelaga, on est des gens qui résident là, qui viennent de là, qui travaillent là. C'est sûr que ça amène de la nouvelle qui est différente, plus de proximité.
Et donc, toi, tu as commencé ta carrière, finalement, de journaliste en faisant, donc, en étant rédactrice en chef de ce projet hyper local et en même temps en travaillant comme journaliste ailleurs, c'est ça?
C'est ça. En fait, à Quartier Hochelaga, j'ai commencé comme collaboratrice. Là, ça fait à peu près 4 mois que je suis rédactrice en chef. C'est ça. Après mes études, j'ai commencé à faire du remplacement dans certains médias. Là, je travaille au 24 heures, qui est un média distribué gratuitement dans le métro de Montréal, qui couvre l'actualité montréalaise.
Et donc, quelle différence pour toi entre ton métier rémunéré dans un média qui couvre l'actualité montréalaise et ce métier qui est bénévole de rédactrice en chef d'un petit média hyper local?
Le temps. Quand je suis au bureau, je travaille à temps plein. J'arrive au bureau vers 9h ou 10h. Je quitte vers 5 ou 6h. J'ai toute la journée pour creuser mes dossiers, appeler mes sources. Des fois, on me laisse 2, 3, même 4 jours pour faire un article. En parallèle, je vais faire de la nouvelle plus actuelle. Puis ça, c'est ce qui manque un peu à tout le monde à Quartier Hochelaga. C'est aussi une question de crédibilité. Quand j'appelle au nom du 24 heures une institution, une source, on me répond très rapidement. On va être très diligent à me fournir certaines données. Au niveau des médias locaux comme Quartier Hochelaga, tu as une crédibilité à bâtir pour que les acteurs du quartier, après, aient le réflexe de vouloir faire une entrevue avec toi ou de t'envoyer les informations pertinentes, les documents pertinents, les données pertinentes que tu vas avoir besoin.
Parce que c'est un média jeune, finalement, et justement, comment il a été accueilli par les habitants du quartier Hochelaga?
Moi, j'étais pas là quand il a été lancé, mais tout le monde dans le quartier Hochelaga dit que il y a eu une belle réception, notamment au niveau beaucoup des groupes communautaires qui étaient quand même contents de voir ça apparaître. Les élus locaux aussi étaient quand même assez contents. On a fêté nos un an l'année dernière. Puis bon, les élus municipaux, provinciaux, même fédérales sont venus faire un tour pour souligner, bon, nos un an, ce qui était aussi une forme pour nous d'asseoir un peu notre crédibilité puis de dire, bon, ben maintenant, tout le monde reconnaît notre existence, nous considère comme un joueur du quartier. Je pense que généralement, les gens sont assez contents. Puis sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup aussi sur Facebook. Des fois, on met du contenu, les gens réagissent fortement, partagent, commentent, vont liker. Tu vois qu'il y a une belle appropriation là, par beaucoup de personnes du quartier.
Dernière question, est-ce que ça serait envisageable pour vous d'en faire une véritable activité économique? Aujourd'hui, vous êtes bénévole, toi tu as un autre métier, les autres personnes qui sont impliquées dans ce projet également, mais est-ce que c'est un objectif? Est-ce que vous souhaiteriez en faire votre source de revenus principale?
Là, on est en train de développer un plan d'affaires, justement. La question, c'est de voir comment on fait pour avoir du financement qui est stabilisé. C'est surtout ça, de la publicité, les commerçants. Nous, on est juste sur Internet. On aimerait ça que des gens puissent travailler à temps plein sur ça. On aimerait ça payer certains collaborateurs aussi qui écrivent des articles. C'est sûr qu'à terme, on aimerait ça que ce soit rentable.
Bonjour Stéphane Desjardins.
Bonjour.
Toi, tu t'occupes d'un autre site hyper local pour un autre quartier qui s'appelle Mercier Est, c'est ça?
Exactement.
Et ça fait à peu près un an que le projet a été lancé?
On a fêté notre première année il y a quelques semaines.
Tu as entendu les différentes présentations. Tu souhaites peut-être réagir ou expliquer comment tu te positionnes, toi, par rapport aux autres projets?
En fait, c'est né d'un besoin citoyen, c'est-à-dire que quand on a lancé ce média-là, quand vous déménagez d'un quartier à l'autre, c'est comme si vous déménagiez d'un village à l'autre.
Toi, tu es arrivé à Mercier-Est il y a un peu plus d'un an. Tu avais emménagé dans ce nouveau quartier qui est quel genre de quartier pour ceux qui ne connaissent pas?
En fait, Mercier-Est, c'est un quartier qui s'est beaucoup développé tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu développement de banlieues. Mais c'était des banlieues semi-ouvrières, semi-professionnelles. Et dernièrement, il y a des nouveaux développements qui s'installent dans ce quartier, dont un immense développement qui a été planifié par la ville qui s'appelle le Faubourg Contrecœur et qui comporte tant des logements sociaux que des unifamiliales, des condominiums, des toutes sortes de types de logements qui s'adressent à toutes sortes de clientèles. Et c'est là-dedans que j'ai aménagé. Puis mes voisins et moi, on se posait des questions sur qui sont les commerçants, qui sont les groupes communautaires.
Groupes communautaires, quand vous utilisez cette expression, vous pensez à quoi en fait?
Ben, c'est les mouvements sociaux, hein? C'est les mouvements de femmes, d'environnement,
des associations quoi, nous on dirait.
Voilà, le mouvement associatif si on peut dire. Mais ici, beaucoup de ces organismes-là sont soit des lobbies sociopolitiques, soit des mouvements de charité, soit des organismes qui offrent des services à la population. C'est un mouvement en général très, très, très dynamique.
Toi, tu arrives dans ce quartier et tu commences à t'interroger avec les voisins sur qu'est-ce qui existe ici, qui sont les commerçants. Un quartier, comme tu le dis, comme tu l'as expliqué, en mutation avec beaucoup de travaux, beaucoup de nouveaux logements.
Évidemment, on se posait plusieurs de ces questions-là entre voisins. Et soudainement, ben, je me suis dit, ben, je vais partir un journal, je vais répondre à ces questions-là. Et ça fait.
Toi, tu étais journaliste, on ne l'a pas précisé, de formation, de carrière.
Absolument. Puis on s'est posé ces questions-là entre voisins. Ben, je vais lancer le journal, puis ça fait boum. Il faut dire aussi que dans à peu près tous les quartiers de Montréal, sauf exception, il y a ce développement, cet embourgeoisement, et ça crée des bonnes choses, mais ça crée aussi des tensions sociales, il y a des exclusions, il y a des questions de vivre ensemble qui sont pas réglées, qui étaient pas réglées avant, puis qui sont toujours pas réglées, et ça crée, c'est du bonbon pour les journalistes, évidemment.
Du bonbon, c'est-à-dire que c'est des contenus intéressants, quoi.
Exactement, dans le sens que je dis pas que les tensions sont bonnes pour la société, je fais juste dire que comme journaliste, c'est du matériel qui est absolument incontournable.
D'un point de vue éditorial, qu'est-ce que c'est les sujets que vous allez traiter? Qu'est-ce que c'est les infos que vous allez sortir, vous, par rapport aux communautés, par rapport à votre quartier? Tu peux me donner des exemples?
On traite tout ce que les médias, les grands médias traitent, mais sur une base locale. Alors, on va traiter de la culture, des sports, de l'économie, de l'histoire, des enjeux typiquement locaux. On va traiter d'un coin de rue qui est mal entretenu et qu'il faut repaver tout autant que des questions d'environnement, de prostitution, de pauvreté.
De santé.
De santé, d'intégration des immigrants. On traite de tout, là, puis ça intéresse tout. Évidemment, il y a des sujets qui sont moins populaires. On va couvrir, par exemple, la mairie d'arrondissement par devoir, par acquis de conscience, mais quand on parle de certaines vedettes qui habitent dans le quartier, soudainement, c'est là que l'intérêt se déplace. Ceci dit, on pourrait pas ne pas faire les deux. Il faut faire les deux. Mais évidemment, c'est le lecteur en bout de ligne qui décide, toujours.
J'ai vu que vous aviez aussi des politiciens qui étaient blogueurs, notamment Maka Koto, qui est d'origine camerounaise, c'est ça?
Oui.
Qui était d'ailleurs ministre de la Culture ici.
En fait, j'ai contourné ma question de l'opinion en donnant une plateforme en tant que blogueur. Donc, dans la tête des gens, blog, ça veut dire opinion. Moi, je ne vends pas de publi-reportage. Par contre, au niveau de l'opinion, j'ai des gens qui sont très identifiés. Tous les députés provinciaux, fédéraux ou les élus municipaux ont leur blog dans mon journal. On va se dire les vraies choses. Certains sont très, très partisans dans leurs approches. Ça va, parce que c'est signé comme ça.
Et d'un point de vue économique, comment vous faites? Vous êtes sur Internet et vous avez des annonceurs qui sont des commerçants et des entreprises locales?
Mon plan d'affaires, c'est je suis hyper local. Si tu viens chez nous, si tu annonces chez nous, tu es soit un commerçant local, soit une organisation qui donne des services localement. J'ai très peu d'annonceurs nationaux. Honnêtement, ça m'intéresse peu de les avoir, sauf s'ils ont une succursale dans le quartier. Et c'est ce que je vends, c'est mon concept.
Et ça marche?
Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un annonceur qui m'a dit non, sauf une fois. Et à toutes les fois que je sollicite les gens, évidemment, on me dit pas oui immédiatement, mais on me promet qu'un jour, on va annoncer chez moi. Et ça va tellement bien que j'ai engagé une représentante. En France, vous les appelez les commerciaux. Nous, c'est des représentants. Et cette personne-là, son travail, c'est de faire en sorte que les annonceurs annoncent chez nous.
Toi, en revanche, tu ne te payes pas et tu finances ton projet avec ton propre argent, c'est ça?
Avec mes économies. Mais un jour, j'espère que l'entreprise, non seulement va se payer par elle-même, mais va dégager un profit et même un dividende pour, à tout le moins, rembourser les dizaines de milliers de dollars que j'ai mis là-dedans.
Dernière question avant de conclure cet atelier des médias. Je vais vous la poser aux filles de rumaçon.com. Il y a eu une tendance, il y a à peu près au moment où vous êtes née dans le monde, de naissance de médias hyper locaux. Il y en a eu beaucoup à Paris, en région parisienne, en France, ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont fermé leurs yeux depuis, des projets qui n'ont pas réussi à tenir sur la durée parce qu'ils n'étaient pas rentables économiquement. Vous avez réussi. Depuis quelques mois, on voit des nouveaux projets éclore. Il y a Brooklyner à New York, je ne sais pas si vous vous êtes intéressé, donc qui va décliner, lui, beaucoup moins d'histoires, mais des histoires beaucoup plus narratives, avec un site très esthétique, très joli, un petit peu dans les nouvelles tendances du web. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est une évolution possible pour vous aussi à l'avenir ou pas? Stéphanie.
Oui, en fait, le storytelling en général, c'est toujours intéressant en journalisme, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on veut informer tout de suite les gens sur ce qui se passe au quotidien ou on s'arrête? Bon, je sais que moi, personnellement, c'est le genre d'article que je préfère faire. Cécile fait beaucoup d'actualité. Donc, ça dépend des choix de chacun, je pense.
Mais l'idée, c'est qu'en gros, vous pourrez faire ça peut-être quand le site ou le projet arrivera à vous payer des salaires et ça deviendra votre travail à plein temps, c'est ça? Cécile, tu voulais dire quelque chose?
Ça ne deviendra jamais un travail à plein temps. Je pense que moi, on aimerait beaucoup un jour aussi engager des jeunes journalistes pour les former, des choses comme ça. On parle toujours qu'on met des journalistes à pied. Ce serait le fun de dire qu'on en engage. Ce serait vraiment agréable. Mais des histoires à raconter pourraient aussi aller dans le magazine.
Stéphanie, tu voulais dire un mot?
En fait, je pense que c'était au point de vue de tous les produits journalistiques, quels qu'ils soient, c'est qui va trouver que c'est assez important pour payer. Et là, je pense que la responsabilité revient quand même à chacun des individus dans la société, c'est de se dire, si c'est important pour moi, je dois mettre my money where my mouth is, comme on dit, je dois aussi m'engager à considérer que c'est important au point de le payer. Puis ça, ça va devenir de plus en plus difficile parce que le web, sa nature a toujours été gratuite, à part, bon, pour accéder au web comme tel, mais c'est peut-être une mentalité qui va devoir changer si on pense que les données qui sont diffusées sont importantes.
Merci, merci à tous nos invités. On trouvera sur l'atelier des médias des liens, des informations complémentaires concernant vos différents projets. À bientôt.
Merci.
L'atelier RFI, c'est de l'internet et de la radio en même temps.
Atelier@rfi.fr.
Where you get the best of both worlds, real people and virtual people.
Ce sont vraiment les internautes qui font le ton du journal et le ton d'édition du jour. Les gens souhaitent de plus en plus être acteurs des médias.
Voilà, ça enregistre.
Oui.
Est-ce qu'on raconte?
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Jeanne Mahalouf.
Comment ça va?
Très bien, et toi?
Très bien, merci beaucoup. Tu veux aujourd'hui nous parler de sérendipité et de résilience, deux concepts à la mode, mais souvent mal compris. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que tu les abordes dans l'émission.
En effet, j'ai décidé de répéter, et je devrais sans doute m'en excuser auprès de ceux qui ont compris, mais la triste vérité est que si ces termes sont couramment utilisés dans les cercles qui innovent un peu partout dans le monde, en France et dans l'univers francophone, par contre, ceux qui les comprennent et les utilisent restent trop peu nombreux. La sérendipité, je le rappelle, c'est le hasard heureux. Le fait de découvrir quelque chose qu'on n'attendait pas, elle ne peut être planifiée, ce qui échappe au manager, mais on peut la rendre possible en créant les conditions favorables à la multiplication des hasards propices. Même si les potions magiques conduisant à l'innovation n'existent pas, on retrouve toujours certaines composantes dont les deux plus importantes sont les espaces ouverts et la diversité. Ils permettent que les idées fusent de conversations imprévues, de là l'importance des machines à café et autres lieux de détente dans les bureaux. J'ajouterai volontiers aujourd'hui l'image parlante de collision, souvent utilisée par Tony Hsieh, le fondateur de Zappos, le premier site ayant su nous vendre des chaussures online. Pour lui, la collision, c'est qu'il faut presque littéralement rentrer dans quelqu'un que l'on ne s'attendait pas à voir, aborder un sujet improbable pour que l'on ait des chances de voir sortir des étincelles plutôt créatives.
Je rappelle d'ailleurs que tu avais évoqué longuement le personnage de Tony Hsieh et son rôle dans le développement du centre de Las Vegas dans une chronique précédente. On a bien compris en tout cas ce qu'est la sérendipité. Qu'en est-il de la résilience?
La résilience, c'est à part de l'acceptation de l'échec si importante et si mal comprise, je crois qu'elle se joue à trois niveaux. Il faut d'abord tolérer l'échec. Il est bon d'être capable de le récompenser, car ceux qui n'échouent pas n'ont pas essayé d'aller assez loin. Il faut enfin se donner les moyens de rebondir après avoir échoué. C'est ça, la résilience. Et c'est la partie la plus importante, puisqu'elle débouche, quand tout va bien, sur une nouvelle vie, de nouvelles opportunités. Le terme se retrouve dans de multiples disciplines, dont on trouve la liste sur Wikipédia. J'en ai retenu deux. En écologie et en biologie, la résilience est la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. C'est l'image fondamentale, c'est celle-là qu'il faut retenir. En économie, la résilience est la capacité à revenir sur la trajectoire de croissance après avoir encaissé un choc. La résilience, c'est donc une réponse positive à l'acceptation de l'échec avec laquelle nous avons tant de mal. Elle implique l'intégration des risques. Elle se traduit pour celui ou celle qui échoue par la confiance dans la possibilité et la capacité de se reprendre. Pour un système, c'est à côté de l'érection de protection, la mise en place des mécanismes permettant de redémarrer.
Ce sont donc deux notions intéressantes, mais peut-être un peu loin des préoccupations quotidiennes de chacune et de chacun d'entre nous, non?
Écoute, je me suis posé la question, mais en fait, le terme nous concerne tous dans la mesure où il est la capacité psychologique de renaître de sa souffrance, comme l'a montré le psychiatre et psychanalyste français Boris Cyrulnik. Et ce qui me passionne, c'est qu'il s'applique bien évidemment aux villes, des entités complexes et vivantes comme nous, notamment en cette période de changement climatique. Il semble d'ailleurs que dans la littérature anglophone, la résilience est à ce début de siècle ce que le développement durable était aux années 80 et 90. Il serait temps de mettre nos montres à l'heure, me semble-t-il. Le recours au concept s'est encore accéléré après les ravages causés à New York par l'ouragan Sandy. Le raisonnement est maintenant qu'au lieu de prétendre se mettre à l'abri de tout, il est préférable de créer les conditions d'un redémarrage rapide. C'est un vrai changement de paradigme qui consiste à se donner les moyens de nager dans la tourmente plutôt que d'essayer de faire barrage à la crue.
Merci Francis Pisani. Je rappelle qu'on peut découvrir tes textes sur les sites de l'Opinion et de la Tribune. On peut aussi lire ton blog francispisani.net où tu rassembles tes différentes chroniques. On peut enfin retrouver toutes tes contributions à l'Atelier des médias en audio et en texte sur ton blog de l'Atelier. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 358 de l'Atelier des médias proposé par Marie-Catherine Beut, Francis Pisani, Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Julna Ardouek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse, Pierre Chaffanjon, qui réalise donc son premier Atelier des médias cette semaine, et Ziad Malouf. Merci à Anne-Laure Janson qui m'a permis de rencontrer les médias hyper locaux à Montréal. Merci également à Louise-Marie Bouchard de la radio CIB qui avait par un heureux hasard invité les mêmes interlocuteurs à son émission pendant mon séjour montréalais. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.